Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de One Shot. Je suis Seb et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un petit peu inédit dans le podcast. On va vous parler de Webtoon et plus particulièrement d'un titre, en particulier sur la plateforme Webtoon, justement. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Brian Strom. Salut à toi, comment ça va?
Bonjour, et bah écoute, ça va super bien, un plaisir d'être accueilli dans cette émission.
Et bah écoute, ouais, plaisir partagé parce que on va tout de suite name-dropper Vilimar qui nous a mis en relation, qui a mis un petit message sur le Discord du collectif auquel appartient, du coup, y a-t-il un pilote dans le manga. Et c'est vrai que moi, je suis assez curieux quand même du Webtoon, de manière générale, c'est vrai que c'était l'occasion de pouvoir en découvrir un petit peu plus, et puis justement d'échanger avec toi, et puis après, plus précisément, parler justement du Webtoon que tu scénarises, et qui est assez cool quand même, on va se le dire. Moi, j'ai une bonne petite découverte, c'est sympa comme lecture, et j'ai hâte d'en savoir un peu plus, mais c'est toujours trop court. Enfin, justement, on va parler un petit peu de comment ça fonctionne, etc., le Webtoon. Déjà, je vais laisser un truc basique pour les auditeurs, c'est juste que tu peux te présenter.
Bien sûr, alors c'est marrant parce qu'on a parlé de Vilimar qui nous a donc introduit. À l'origine, donc quand j'avais à peu près 18 ans, je me mettais à écrire des romans dans mon coin et on a aussi essayé de travailler sur de la série audio. C'est comme ça qu'on s'est un peu plus connu avec Vilimar qui lui faisait des montages de séries. Okay. Et de là, j'ai fait mes études, donc mon master de scénario. Et normalement, j'aurais dû, en théorie, atterrir dans le cinéma. Et finalement, c'est une opportunité dans le Webtoon qui s'est présentée. Mais alors, c'est quand même une opportunité que je travaille depuis un an et demi. C'est-à-dire que j'avais lu absolument tout ce qu'il y avait sur la plateforme. J'avais le format bien en tête. La petite anecdote, c'est que quand on a bossé sur notre premier projet, je guidais le premier dessinateur, du coup, sur le format que j'avais analysé de Webtoon. Quand les éditeurs nous ont repérés, ils nous ont envoyé leur petite... formule pour faire du Webtoon, et c'était exactement les notes que j'avais pris personnellement.
Ok, ouais, donc t'avais quand même bien su traduire ce que t'avais pu lire, justement, en forme un peu de veille, avant de te lancer vraiment dedans, quoi.
Voilà, exactement. Donc après, on parlera un petit peu de la forme pour les auditeurs.
Oui, ça va être intéressant parce que, alors, clairement, c'est un test, hein, je te le dis, je sais pas du tout si j'ai un auditorat qui lit du Webtoon. On voit les tendances en fait en fonction des sujets qu'on peut proposer dans le podcast au niveau des écoutes et compagnie, on voit les trucs qui marchent plus ou moins bien. Donc clairement on va faire un peu de basique aussi, on va y revenir tout à l'heure, je vais te laisser terminer de te présenter, mais on va surtout définir ce que c'est un webtoon et essayer un petit peu de simplifier un peu le nom, le terme. Je te laisse continuer en tout cas, puis on y viendra tout à l'heure. De toute façon.
Bon, j'ai fait un petit peu le tour personnellement, du coup, je suis scénariste professionnel de BD aujourd'hui à plein temps. Je travaille actuellement sur mon deuxième projet, donc celui que tu as pu lire.
Ok, donc tu es à plein temps sur ce métier-là, donc c'est beau, c'est de pouvoir arriver à en vivre, c'est chouette.
Alors, donc, je dirais pas qu'on puisse en vivre, par contre, c'était un investissement... Il y a des possibilités d'en vivre, surtout si vous êtes dessinateur, pour le coup. En tant que scénariste, il vaut mieux viser à avoir plusieurs séries en même temps ou espérer avoir, par exemple, une adaptation papier ou des droits supplémentaires, que ce soit publicitaires ou d'achat in-app, pour pouvoir espérer commencer à toucher un revenu convenable.
C'est rigolo parce que, c'est rigolo, non, ça ne l'est pas, mais en fait, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec le monde de la bande dessinée en général. Je pense qu'aujourd'hui, une planche dessinée d'un auteur, d'un dessinateur est beaucoup plus valorisée qu'un script d'un scénariste. Donc on a un peu cet effet-là aussi dans le milieu de la bande dessinée, du comics et du manga, je pense aussi, où les scénaristes, pour le coup... Alors je sais pas, le manga c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas pour la BD traditionnelle, on sent que les scénaristes ont besoin de faire plusieurs projets en même temps pour réussir à dégager un revenu suffisant pour vivre, en tout cas.
Là, on touche au problème du scénario en général, c'est-à-dire que beaucoup de personnes... En fait, pour être scénariste, aujourd'hui, dans le milieu, il suffit de se dire scénariste. Il y a beaucoup de gens qui se disent... Je peux coucher des idées sur un papier, je suis scénariste. Et en fait, ce qui va déterminer si vous le devenez ou non, il y a une partie de détermination, il y a une partie de talent, mais pour beaucoup, ça marche au piston. Donc du coup, effectivement, c'est là qu'on va avoir les meilleurs projets. Et si on vient, disons, de nulle part, on va devoir faire beaucoup plus d'efforts, on va devoir brader son talent. Et aussi, après, il y a une notion qui est tout à fait logique derrière, c'est qu'un dessin prend plus de temps à être fait qu'un scénario.
Ah oui, complètement.
Si j'écris une phrase, ce personnage ramasse un verre sur la table, je viens de finir d'écrire la phrase, on a le dessinateur, il va prendre au moins entre 30 minutes et une heure pour dessiner la case.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais oui, non, mais ça, après, c'est valoriser le travail à sa juste valeur aussi. Mais tu vois, c'est un peu, on peut faire aussi un parallèle. Tu parlais de cinéma tout à l'heure, avec, bon, c'est une grève qui se termine là, mais dans le monde du cinéma, actuellement, Hollywood, où tous les scénaristes sont en grève, bah, voilà, c'est aussi une histoire de aussi arriver à revaloriser les statuts de chacun et les salaires de chacun. Donc, c'est un problème assez profond et qui mettra peut-être un peu plus de temps à bouger, peut-être dans la bande dessinée, parce que. Je sais pas, un vecteur peut-être un peu moins, qui rapporte un peu moins que le cinéma, on va dire.
Oui, exactement. C'est-à-dire que ils ont raison de faire grève, très certainement, vu les parts qu'ils touchent par rapport à des producteurs. Mais la situation d'un scénariste américain aujourd'hui, moi, je signe tous les jours. Voilà.
Ah oui, non, mais je pense que
Je veux
tout le
bien
monde
prendre leur
signe.
place. Voilà, exactement.
Oui. Non, mais là, en fait, oui, c'est, je pense que on vit pas dans le même monde et ils veulent aussi s'asseoir sur un niveau de vie qu'ils ont maintenu chaque année. Et il voit qu'il touche pas ce qu'il devrait toucher. Tu sais, on pourrait, tu sais, c'est un vaste débat. On pourrait aussi développer sur la valeur d'un footballeur par rapport aux millions qu'il gagne et par rapport au simple fait de courir derrière un ballon. Enfin, voilà, on va pas lancer le sujet maintenant parce
Voilà,
qu'on va
non.
s'égarer.
On va se
Mais
faire des ennemis,
clairement,
ouais.
oui, on va se faire des ennemis. Bon, quoique, après, tu sais, c'est, il y a des gens. Moi, je connaîtrais toujours un collègue à moi qui avait réussi à me démontrer par A plus B que c'était normal qu'un footballeur touche
Ah, mais
tant de millions
personnellement,
d'euros par an.
je trouve ça
Et
normal, ouais.
ça se tenait.
Oui,
Ça se
non,
tenait.
pour le coup, c'est normal, ça paraît fou, mais non, ça se tient, puisque c'est eux qui rapportent cet argent finalement au club.
Ben
Ils
oui.
touchent un peu leur juste part.
C'est ça. Non, mais c'est clair. C'est un long débat du salaire. Et puis en France, c'est un petit peu tabou aussi, on va le dire. Donc le côté argent. Donc
Oui,
bref.
en général, on n'en parle pas, oui.
Non, c'est sûr. Avant qu'on s'intéresse justement au titre que tu as écrit avec ton acolyte, dessinatrice, est-ce que tu peux nous donner, pour peut-être les 4-5 du fond comme moi, là, qui est au fond, qui connaissent pas le webtoon, c'est quoi le webtoon en fait? Tu as une définition à nous donner, explique un peu ce que c'est ce genre.
Alors, c'est un format assez récent aujourd'hui, donc qui est originaire de Corée du Sud. Donc, à la base, on appelait ça des manhwa, donc c'était des mangas coréens. Sauf qu'au lieu d'être lus sur papier, eh ben, ils étaient lus sur téléphone. Donc, le format, il va changer d'une façon très simple, c'est qu'au lieu d'être des pages qui se tournent, on est sur un scroll constant sur téléphone. Donc, on est vraiment sur un format qui s'est adapté parfaitement, on va
Ouais,
dire, à cet outil
du
moderne.
haut vers le bas, quoi. Si je dis pas, enfin, tu chasses le scroll en montant, quoi, en fait, avec ton doigt. Je sais pas si j'arrive bien à
Voilà.
décrire,
Oui, c'est
je le
bien
fais,
ça.
mais on le voit pas, mais.
Il faut imaginer vraiment comme c'était un immense parchemin qu'on déroulait, qu'on découvrait la suite de la BD à mesure que le parchemin se déroule, tout simplement.
Alors tu vois, tu as utilisé le terme manhwa. Bon, je sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai un bon 38 ans que j'ai fêté dignement cette année. Moi, les manhwas, je les ai connus parce qu'à une époque, c'était à la mode, il y a une bonne grosse quinzaine d'années. On en a encore un peu qui sortent aujourd'hui, mais c'est quand même, ça a été vite, entre guillemets, c'est le webtoon qui a pris le dessus, en fait. Mais moi, j'ai mon époque où on avait certains éditeurs, qui, je pense à Tokebi, entre autres, qui faisaient du manhwa en format papier. Et ça ressemble alors pas du tout à ce que tu peux trouver sur les webtoons qu'on va avoir sur notre téléphone, parce qu'il y a déjà une grosse différence, c'est déjà la narration et la disposition des cases, bah, c'est pas les mêmes, puisqu'en fait le manhwa, ça se rapproche plus d'un manga, en fait, dans la façon de dessiner et de disposer les cases. Et puis t'as surtout un autre truc, c'est que c'est en couleur aussi, le webtoon. Enfin, j'ai pas vu encore de webtoon en noir et blanc.
Tout à fait. En fait, le manhwa à la base, c'était dans l'imitation pure du format manga, un peu comme on peut avoir le Manfra aujourd'hui. Quand c'est arrivé, que c'est débarqué sur téléphone, on s'est vraiment adapté à cet outil. Et du coup, ben, la couleur, c'est quoi le vrai problème dans un manga? C'est que ça coûte cher à l'imprimeur. En
C'est ça.
numérique, ça ne coûte rien. C'est l'image, elle est projetée sur ton écran.
Complètement. Ça, il y a une histoire de coût qui doit être moindre. Et puis après, suivant le succès du webtoon, on peut être amené à le découvrir sur, comment dire, sur en format papier. Il y a quelques webtoons qui ont été adaptés en format papier. On espère que ça sera peut-être un truc pour vous un
Tout
jour,
à fait,
pourquoi
oui,
pas.
ça arrive quelquefois aussi à des séries françaises. Donc je pense qu'on tient une série qui pourrait finir en format papier. Alors on n'est pas encore là, puisque nous on vient de se lancer très récemment. En général, on commence à avoir des adaptations au bout de 1 an et demi, 2 ans après les premiers épisodes.
En fonction du succès et en fonction de l'accueil. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que le webtoon est vraiment clairement dans son temps. Moi, je pensais avec un regard de vieux, hein, mais si je le prends avec un peu de recul, il y a tout ce côté interaction qu'aujourd'hui on n'a pas dans le manga, qu'on n'a pas. Et je trouve qu'ils arrivent, en tout cas avec le webtoon, à allier vraiment le côté lecture d'une bande dessinée, sur smartphone, parce qu'on est tous, enfin maintenant le smartphone c'est devenu un peu une extension de notre corps, et il y a ce côté aussi interaction. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez avoir quasiment en temps réel en fait les réactions de vos lecteurs qui vont vous mettre un like, qui vont vous commenter le chapitre qu'ils viennent de lire. Parce qu'on l'a pas dit, ça sort par chapitre, et en général c'est un chapitre par semaine quoi. C'est à peu près ça le rythme en moyenne
C'est
de
ça,
Webtoon, si
non,
je dis pas de bêtises.
c'est même le rythme imposé. On doit avoir un épisode qui publie sur la plateforme chaque semaine. Après, nous, on n'est pas obligé de produire un chapitre par semaine. Par exemple, on a beaucoup d'avance, nous, sur la série actuelle. Donc, on a une publication qui se fait de manière hebdomadaire, mais au niveau du mois, on est plus sur deux épisodes dans le mois.
Ça, c'est en production plus qu'en diffusion, du coup, c'est ça que tu me dis.
Voilà, c'est ça.
Vous travaillez suffisamment en amont les chapitres pour pouvoir maintenir le rythme hebdomadaire après de publication sur la plateforme.
Voilà, et la différence avec le manga, c'est que une série va signer en saison. Donc on va signer pour un paquet d'épisodes, et ensuite on va demander à renouveler la série, un peu comme sur Netflix, et c'est là qu'on va commencer à dessiner la saison 2. Donc en général, il y a une pause assez longue de plusieurs mois entre deux saisons d'un webtoon, et là ça va être le moment, bah, pour nous, si on garde ce rythme-là, de reprendre de l'avance sur les épisodes de la saison 2, avant de les poster sur la plateforme de manière hebdomadaire.
Et est-ce qu'il y a un nom? Alors, est-ce que pareil, tu prends l'exemple de Netflix qui des fois impose un certain nombre d'épisodes par saison. Est-ce que dans le webtoon, alors on va très vite venir à ton webtoon, est-ce qu'il y a un nombre imposé de chapitres par saison?
Absolument pas, ça peut vraiment varier en fonction de l'histoire. En général, pour une histoire de chapitres moyennement longs de 60 cases comme nous, on va arriver sur entre 40 et 60 épisodes pour une saison. Voilà, mais c'est un cas général, mais c'est pas forcé. On peut demander moins, on peut demander plus.
Et pareil, au niveau du nombre de cases demandées, est-ce qu'il y a une moyenne aussi? Parce que on a ce nombre de chapitres, donc tu dis que c'est entre 40 et 60. Et après, sur le nombre de cases qu'on va scroller sur son smartphone par chapitre, est-ce qu'il y a un nombre aussi défini? Ou est-ce que c'est pareil, tu peux faire des trucs plus ou moins longs?
Tu peux faire plus ou moins long. Bah, tu as des séries très courtes, des fois un petit peu comme ce que tu peux trouver sur Twitter, c'est des petits comics rigolos. Donc là, tu vas avoir du 4 cases. Ça peut être aussi des formats plus courts, 20 cases, ou alors comme nous on fait mi-long, c'est-à-dire 50-60 cases. C'est le format qui va être le plus répandu en France parce que bah si on compare à la Corée qui ont eux des immenses studios pour produire aujourd'hui des webtoons, on est vraiment plus du tout dans cette sphère amateur-là. On va tourner plutôt autour des 110-120 cases.
Ok, c'est pas imposé en tout cas par les plateformes. Il n'y a pas un nombre imposé défini. C'est souvent la votre capacité à produire en fait des cases quoi, en gros.
Il y a un nombre de cases qui est recommandé. Par exemple, pour une série action comme la nôtre, on considère qu'au-dessous de 60 cases, ça commence à être un petit peu court.
Donc il y a quand même vous avez une espèce de directeur éditorial qui vous suit et qui doit vous orienter aussi certainement sur la bonne direction à suivre, je suppose.
Voilà, exactement.
On va tout de suite passer, si tu le veux bien, à je pense qu'on a fait après le tour de ce qu'est le Webtoon. On va s'intéresser tout de suite à pourquoi tu es là. Hein. On va parler, donc j'espère ne pas mal le prononcer, mais on va parler de Stahl Knight. Je sais pas si je le dis bien.
Alors, je pense pas qu'il y ait de vraie prononciation. Moi, je dis Stall Night, par exemple. Alors, c'est un mot anglais mélangé à un mot allemand. Stall, c'est simplement style, mais en allemand, quoi.
Donc c'est chevalier d'acier, chevalier de métal en gros, hein, si on
Chevalier,
traduit en France.
en gros, c'est ça. Après, il y a une explication dans l'univers de pourquoi ce terme-là. Les réponses sont distillées au fur et à mesure dans les épisodes. Mais globalement, oui, ce sont des chevaliers donc magiques. On peut dire des chevaliers sacrés qui sont bénis des dieux. Et leur armure est constituée d'une partie d'un acier qui permet de se connecter à ces divinités.
Donc un petit peu d'aller chercher la technique ultime à balancer dans un combat.
Voilà, exactement.
Eh ben vas-y, je te laisse en parler, parce que tu es quand même le mieux placé pour en parler. Toi, tu es le scénariste, donc tu es accompagné de Saphir, qui donc fait le dessin. Et puis je te laisse nous expliquer un peu de quoi ça parle, où est-ce que vous allez en ce moment, combien de chapitres vous avez prévus. Et puis après, on va construire tranquillement la discussion autour du webtoon.
Tout à fait. Eh ben, écoute, c'est l'histoire classique de trois protagonistes qui sont un petit peu en couleur. Chacun a vraiment sa personnalité qui est clairement définie. Ils viennent de trois endroits différents du pays, passent le même examen, et évidemment, leur but, c'est de devenir plus tard Stall Knight, donc les fameux chevaliers sacrés dont on parlait juste avant. Donc après, on a un petit mélange. On peut s'imaginer un début, tu sais, à la My Hero Academia en termes de manga. Donc ils vont avoir des épreuves à accomplir, certaines choses à réussir pour pouvoir avoir le droit plus tard de devenir potentiellement un Stall Knight.
J'ai vu des parallèles avec Hunter Hunter, moi, perso, sur la manière de la narration, le côté un peu examen, ils finissent par se croiser, faire l'aventure ensemble.
Voilà, personnellement, c'est mes inspirations premières. Hunter x Hunter, je suis un fan monumental, voilà,
Ok,
j'adore.
bon, j'ai visé juste alors.
Exactement. Et en fait, là-dessus, là où je vais vraiment m'inspirer, c'est plutôt au niveau de la crédibilité, de la cohérence. Par exemple, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est d'introduire des pouvoirs, par exemple, sans les expliquer. Prenons dans Hunter x Hunter, si tu te souviens bien, on a l'apparition de personnages tels que Hisoka ou Lumi, qui utilisent
Oui.
déjà le Nen. Alors que le Nen serait expliqué seulement, il me semble, 10 tomes plus tard.
Oui, et je vais être franc, j'ai toujours pas compris ce qu'était le nain. Hein. Je trouve que c'est une des explications les plus éclatées qu'il peut y avoir dans le manga. Je trouve que c'est trop complexe pour ce que c'est réellement, en fait, au
C'est
final.
très
Mais bref.
complexe. En fait, ça te permet juste de dire que, en gros, tu peux faire ce que tu as envie, mais avec des
Ouais.
contreparties. C'est-à-dire que tu peux pas simplement faire apparaître le Death Note dans tes mains et que tu tues quelqu'un sans que ça te coûte quelque chose.
L'équivalent d'échange équivalent. Encore une référence à un autre manga bien connu sur l'échange équivalent. Ceux qui ont la ref ont la
Voilà,
ref.
qui est une autre de mes grosses références. Tu as cité les deux, voilà, Hunter x Hunter FMA, pour moi, c'est les monuments du shonen. Et clairement, c'est de là qu'il faut tirer ses inspirations.
Ouais, mais alors autant, tu vois, on sent que c'est. On sent la référence, mais c'est pas non plus le gros coup de coude dans les côtes, quoi. T'arrives quand même à t'en affranchir dans l'écriture. Alors on peut le dire, donc là on suit trois personnages principaux. Je te laisse éventuellement les décrire, éventuellement les présenter, et puis nous expliquer un peu de comment démarre le webtoon, si tu veux.
Bien sûr, alors on a Pan qui va être le personnage principal en fait, on a un trio de protagonistes, et donc c'est une fille qui vient un petit peu de la forêt, elle a eu un passé particulier qui l'a conduite à vouloir devenir Stall Knight, mais elle a un petit peu rien pour devenir Stall Knight, c'est-à-dire qu'elle a jamais porté d'armure de sa vie, elle a jamais tenu d'épée, on va la voir se battre avec une casserole au début de la série, mais elle a quand même énormément de capacités. On va avoir un autre personnage qui s'appelle Viest. Alors lui, c'est quelqu'un qui a traîné dans son manoir toute sa vie, qui connaît que ses bouquins et qui est un tel fainéant plutôt, qui utilise des sorts pour faire, par exemple, sa vaisselle, se faire à manger, faire son lit. Enfin, vous imaginez toutes les tâches un petit peu que vous n'avez pas envie de faire quoi dans la vie de tous les jours. Et il se dit, bah, je vais partir à l'aventure parce que si j'arrive à vaincre les monstres, c'est-à-dire qu'il y a une recrudescence de monstres actuelle dans l'histoire, ma famille va pouvoir redevenir riche et je pourrai reglander dans mon manoir.
Ouais, il a un côté très vénal, hein. Faut se le dire, c'est peut-être le personnage vénal du webtoon, en tout cas.
Exactement.
Ouais.
Et après, on a le perso vraiment shonen abusé, c'est-à-dire un personnage qui passe son temps à s'entraîner, qui est extrêmement puissant. On pourrait le comparer à des
À
personnages
Machel.
à Mashle, voilà,
Ouais, j'ai
exactement.
pensé à Machel direct, ouais.
Tout à fait. Le personnage très très musclé et qui va un petit peu rouler sur la compétition. Alors l'idée que c'est que chacun a ses forces et ses faiblesses, qu'au départ il y a des personnages qui vont plus briller que d'autres en fonction des circonstances, mais au final on va se rendre compte qu'ils ont tous d'immenses lacunes et que bah le monde il est pas si tendre que ça.
Ouais, mais c'est vrai qu'après, je trouve que ce qui est intéressant, alors est, je, moi je pense, en fait, je me dis, bon, clairement, c'est le personnage complètement pété du webtoon, parce on sent vraiment qu'il a des grosses capacités cachées et qu'il fait beaucoup de choses naturellement, enfin, qu'elle fait beaucoup de choses naturellement, et en pensant que c'est pour elle, c'est logique, et que par rapport aux adversaires qu'elle affronte, en tout cas là où je suis à jour, à un moment on enregistre, on est au chapitre 4. Et c'est vrai que on se dit ouais, à mon avis c'est peut-être elle la plus costaud de la bande. En tout cas, je le vois comme ça, hein. Peut-être je me trompe, mais on sent qu'elle a des grosses capacités cachées en tout cas.
Tout à fait, mais je pense que les lecteurs seront très surpris parce que un des personnages qui brille le moins en fait dans ses premiers épisodes est peut-être celui qui a les plus grosses capacités. Après, les personnages vont évoluer. Je suis un petit peu partisan de l'écriture organique, c'est-à-dire que je laisse
Ok.
vraiment mes personnages libres au sein de leur univers. Je prévois des climax, des scènes marquantes, quelque chose qui va vraiment prendre en haleine le lecteur, mais de manière finale, on va dire, les personnages restent libres. Ils vont toujours agir de manière cohérente et, en tout cas, je l'espère, en accord avec leur personnalité.
Bah, d'ailleurs, sans spoiler, parce qu'on va inviter quand même les auditeurs allez jeter un œil. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. On en a quand même un très très gros dès l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, où il y a un personnage, il arrive quelque chose à un personnage, mais je m'attendais pas à ce que tu lui donnes cette finalité-là aussitôt.
Exactement. Bah alors ça, c'est une de mes petites fiertés. Une des choses les plus importantes pour moi dans un scénario, c'est d'arriver à surprendre le lecteur. Il n'y a aucun
Ah ouais, bah
intérêt,
ça a marché, hein, clairement.
voilà. Pour moi, lire et que ce soit un long fleuve tranquille, qu'on voit où ça va arriver, que c'est juste un enchaînement logique des événements, pour moi, ça ne m'intéresse pas. En soi, la vie est faite de surprises. Donc que tout se passe comme sur un long fleuve tranquille, c'est pas normal. Moi, je prends pour exemple simplement ma carrière qui a eu énormément de hauts et de bas, de surprises. Par exemple, je devais tourner un super court-métrage. Pandémie mondiale, Covid, il se sera jamais tourné. Voilà, c'est des choses
Ah oui.
qui arrivent dans la vie. Dans un scénario, souvent, quelqu'un veut faire son film, il va faire son film, il va y arriver, il a monté les trucs, il va faire des difficultés, mais ce genre d'événement-là ne va pas arriver. Pourtant, le monde, il est extrêmement complexe. Et ce qui arrive donc dans l'épisode 2, et avec la finalité du personnage dont tu parles, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs imprévisibles qui sont beaucoup plus, qui sont très grands, qui nous dépassent, qui peuvent du coup complètement changer le destin d'une personne.
Il y a aussi un truc que j'ai vraiment bien aimé, j'étais assez surpris parce que, encore une fois, bon, tu vas peut-être me dire que c'est quelque chose d'assez courant et assez fréquent dans le webtoon. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai quand même lu quelques-uns, et là ça m'a surpris, mais je me dis, mais c'est vrai que c'est quand même bête de pas s'en servir. Vous avez quelques cases qui sont animées.
Tout à
Il y a des
fait.
effets d'animation. Et ça, je sais pas si c'est courant dans le webtoon, mais j'ai pas l'impression non plus. Et je trouve que c'est hyper malin de l'avoir fait parce que je me dis, bah, c'est dommage d'avoir un support numérique et de pas de temps en temps mettre un peu d'animation. Je ne vais pas regarder un dessin animé, hein, c'est pas le but, mais ça a son petit effet quand même, je trouve, les effets d'électricité qui bougent, tout ça, c'était vraiment sympa.
Eh ben écoute, ce n'est pas courant du tout. Parce qu'en
Ah,
fait,
ok.
il y a des
Ouais.
séries coréennes qui ont essayé de le faire. Et ils n'arrivent pas à le faire dans la mesure. C'est-à-dire que tu sais, c'est soit ils ont tout le budget, soit ils l'ont pas. Donc quand ils l'ont fait, ils l'ont souvent fait sur absolument toutes les cases. Et le problème, c'est que quelque chose qui bouge à chaque case, eh ben, ça va ralentir ta lecture. L'intérêt du webtoon, c'est de scroller continuellement, d'être plongé dans l'histoire, tu vois, dans un flux continu. Si tu dois t'arrêter à chaque case pour profiter de l'animation, forcément, l'expérience de lecture, elle est vraiment altérée. Par contre, comme on fait nous, et finalement, on est un petit peu contraint aussi par le budget. On va choisir une case où l'animation va vraiment faire une plus-value, et où surtout, très important, choisir une case où l'animation sera une boucle. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir une animation, tu sais, qui a un début et une
Et une
fin,
fin,
parce
ouais,
que
bien
tu
sûr.
pourrais arriver au moment du scroll à la fin de l'animation. Et donc, ça
Oui.
ferait pas logique.
Alors après, je trouve qu'il y a des effets malins dans le webtoon, tu sais, de dégradé de couleur, de jouer avec les dégradés de couleur, qu'en fait, plus tu scrolles et tu passes en fait d'un état du jour à la nuit, par exemple, tu vois. Ça, je trouve que c'est des effets vraiment malins. Je trouve que, encore une fois, c'est super de l'utiliser. Alors, encore une fois, je me semble pas l'avoir vu dans le vôtre. Mais c'est, tu vois, je pense à tous ces effets pratiques qui donnent un peu plus de vie à la lecture. Et pour revenir sur l'effet là de justement d'animation, tu t'as parlé de budget à un moment donné. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Parce que pour que ce soit clair, je sais pas si on peut en parler ou pas, mais
Ah oui,
qu'est-ce
très bien.
que.
Bah écoute, nous on vend les épisodes à une certaine somme auprès de Webtoon. Et
D'accord.
après de cette somme-là, donc on fait une répartition. Donc la majorité va à la dessinatrice puisque c'est elle qui donne le plus clair de son temps et qu'elle doit pouvoir vivre de son métier. Le reste, c'est
Ok.
une part que je vais me verser et aussi une part que je vais considérer comme étant du budget. Donc aussi on partage sur certains points, on partage le budget avec la dessinatrice. Par exemple, on a quelqu'un qui s'occupe des storyboards aujourd'hui. Et donc on fait un
Ok.
ratio proportionnel pour payer le storyboard.
Tu fais pas les storyboards du coup de ton côté. Ça fait pas une partie que tu aurais pu gérer en tant que comme font certains scénaristes aujourd'hui avec les Nemu, les Nemu, c'est comme ça qu'on dit, ouais, je crois que c'est le mot. Les espèces de croquis préparatoires que font certains scénaristes pour orienter le dessinateur. Donc ça, c'est quelque
Tout
chose
à
que du coup
fait.
vous sous-traitez. Ok.
On sous-traite, personnellement, c'est pas trop mon délire de faire des Nemus. C'est vrai que ça prend du temps, pour pas grand-chose, parce que si t'es vraiment quelqu'un qui est concentré à fond sur le scénario, bon, tu vas faire des petits bonhommes bâtons, ton dessinateur, il va devoir interpréter ça, et en plus, bah, bride d'une certaine créativité, que ce soit le dessinateur ou le storyboarder que tu emploies.
Ce qui peut être intéressant aussi, là, c'est vraiment sur le côté relation avec la plateforme. Je ne sais pas jusqu'où tu peux en discuter, en dire. Comment ça fonctionne en fait dans la négociation, enfin dans les échanges. Est-ce que Webtoon, déjà, est-ce que c'est une plateforme française, c'est pas français
Alors Webtoon, c'est le leader du marché, donc c'est le ceux qui ont démarré le Webtoon en Corée. C'est un peu comme
Ok.
les tu sais, quand on demande à quelqu'un de te passer un Kleenex, normalement c'est la marque Kleenex. Là on parle de
Oui.
Webtoon, mais en fait à la base c'est une marque Webtoon. Voilà.
Ok.
Donc à la base c'est coréen, mais évidemment il y a une antenne française et nous c'est avec eux qu'on communique directement. Donc on a nos éditeurs français, chaque auteur français a son éditeur et c'est avec lui qu'on va communiquer en direct et qu'on va avoir les infos du coup bah des différentes commissions éditoriales. Ou par exemple tout ce qui est un petit peu promotionnel, les concours, etc.
Ce qui peut être intéressant d'échanger. Alors, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur vraiment le cœur de l'œuvre pour, entre guillemets, donner peut-être deux, trois arguments supplémentaires pour donner envie aux gens d'aller découvrir la série. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Parce qu'après, je voudrais vraiment m'intéresser au côté stats, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant
Bien sûr.
de voir comment c'est géré, parce que c'est il n'y a pas de tabou là-dessus, on va y revenir, mais est-ce que tu veux rajouter éventuellement quelque chose, toi, sur ta série
Bah, les gens iront lire si ça leur intéresse. Pour le coup, on est vraiment sur du shonen action fantastique, donc c'est un peu le genre dominant, je pense qu'il intéresse peut-être tes auditeurs dans le manga déjà. Et on est très inspiré de ça. Et derrière, bah voilà, le but c'est de surprendre, c'est de divertir. On n'est pas dans une idée en mode, waouh, là on fait vraiment l'œuvre, je sais pas, du siècle. Oui, évidemment, on essaie de faire une belle œuvre. Mais le but c'est pas de s'auto-gratifier, c'est vraiment de proposer quelque chose au lecteur qui passe vraiment un bon moment devant. Pour l'instant, on a vraiment d'excellents retours. On va parler des stats d'ailleurs, il y a des choses assez intéressantes à analyser dedans. Mais voilà, vous savez que la lecture sur Webtoon est gratuite, les épisodes s'enchaînent assez rapidement. 60 cases, c'est la moitié d'un chapitre de manga. Un chapitre de manga, ça va plutôt être dans les 100 cases.
Ok, d'accord, tu vois, c'est une donnée que j'avais pas. Parce qu'il commence à avoir certains mangas, et je pense notamment à. Le nom m'échappe, mais il y a des mangas qui commencent à être adaptés au format Webtoon, et je sais qu'ils ont adapté.
Hell's
On l'a
Paradise.
très. Ouais, on l'a traité dans l'émission, donc honte sur moi. Mais ouais, Hell's Paradise a été adapté au format Webtoon, et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot d'adaptation. C'est plutôt intéressant comment ils l'ont adapté.
C'est assez sympa. Après, donc moi je suis pas dans la stratégie de Webtoon, je sais pas qu'est-ce qui est cherché à travers ça. Mais c'est vrai que pour moi la force de Webtoon, c'est le Webtoon. Pas forcément adapter des mangas sous ce format-là. D'autant qu'aujourd'hui, bah. Les gens sont quand même très familiers avec le format papier du manga ou même les scans sur Internet. Alors, on peut dire scan ou simplement chapitre à lecture en ligne aujourd'hui. Il y a le Shonen Jump qui a ouvert sa plateforme.
Oui, après c'est deux. Enfin, moi, pour le coup, je différencie vraiment les deux, c'est-à-dire la lecture numérique, où tu vas. D'ailleurs, je suis un gros consommateur de lecture numérique, les auditeurs le savent. C'est-à-dire sur tablette, mais comme si je l'avais un manga papier dans les mains, mais je l'ai en version numérique sur ma tablette. Je trouve que ça apporte aussi un certain confort de lecture, et quand tu manques de place comme moi, ben, c'est aussi une solution quand même plus pratique. Et puis après, tu as vraiment le côté, moi je pense vraiment le côté Webtoon, qui est encore une forme de narration vraiment différente. Tu vois, c'est vraiment une manière de raconter une histoire qui, je pense, va toucher quand même un public plutôt jeune, hein. Je pense que, à mon avis, enfin, ça touche quoi, du 12-18 ans, peut-être éventuellement. Je ne sais pas si je me trompe, mais on doit pas être très très loin.
Alors l'âge, il est vraiment très variable. J'ai pas les statistiques de l'application, mais c'est vrai que tu as un public qui peut être aussi relativement jeune, parce que nous, on a grandi avec les mangas. Il faut se dire que la nouvelle génération, elle, grandit avec un téléphone dans les mains et donc avec l'accès gratuit à Webtoon. Quand tu es un enfant, dis-toi que bah nous, il fallait supplier nos parents pour avoir le manga à 5 euros. Là, ça installe Webtoon et ça a accès à des centaines de séries, avec des dizaines et des dizaines d'épisodes, tout ça gratuitement.
Oui, et puis il y a ce système de. Alors, moi, c'est, je trouve, en tant que lecteur qui aime bien binger, l'énorme frustration que j'ai à lire des webtoons, c'est de devoir attendre à chaque fois une semaine. Des fois, j'aime bien commencer une lecture, et de me dire, bon, bah, j'ai peut-être, je ne sais pas combien de chapitres d'avance, mais des fois, tu es aussi limité avec le nombre d'épisodes que tu peux lire par jour. Donc, moi, c'est peut-être le seul frein que j'ai, c'est gratuit, mais pas vraiment non plus, quoi. Faut savoir alterner entre plusieurs lectures pour te dire. Enfin, savoir jongler pour pouvoir patienter sur une autre lecture qui n'avance plus parce que soit elle n'est pas sortie ou soit bah, t'es limité en jetons, quoi.
Voilà, exactement. En fait, en général, les épisodes donc qui sont payants vont devenir gratuits la semaine suivante. Donc tu peux très bien attendre. Et après, ben voilà, il y a tellement de choix sur la plateforme. Alors, il faut faire attention, moi aussi, hein. Je vais souvent lire des séries qui ont déjà beaucoup d'épisodes pour pouvoir tout lire d'un coup. Mais il faut aussi savoir que le succès des séries est souvent déterminé par les lecteurs qui vont prendre sur les premiers épisodes. C'est pour ça que c'est très important, par exemple, pour nous, de pouvoir faire des bonnes statistiques là dans les semaines à venir. Parce que oui, si les gens commencent à lire quand il y a 20-30 épisodes, effectivement, la lecture est peut-être plus confortable, mais ça peut créer un souci. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'on pourra se relancer sur une saison 2, etc.
Ouais, mais justement, ça, bah, tu fais une bonne transition. On va parler un peu des stats. C'est quoi une bonne stat? Parce qu'en fait, alors moi, encore une fois, je décris un peu ce que j'ai sur votre page. Donc, on a les chapitres qui donc sont numérotés. On a des likes. Donc voilà, on voit que vous avez une moyenne assez constante de likes de 1000. Et on voit donc il y a un premier icône qui est donc l'œil. Donc je suppose que c'est les lectures de tes chapitres. Vous êtes à 37 913. Je vois un truc utilisateur, donc je pense que vous avez 6000 utilisateurs qui lisent votre webtoon. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe.
Tout est
Et vous
bon.
avez une note de 9,35 sur 10. Je suppose que c'est sur 10.
C'est sur 10.
Vous êtes plutôt bien noté. Enfin, c'est même une très bonne note.
C'est alors
Mais alors
pour
du
être
coup.
voilà, pour être tout à fait honnête, alors sur Webtoon, vous allez avoir la grande majorité des Webtoons qui vont tourner entre 9 et 10 au niveau de la note. Globalement, si vous avez une
Ah.
note qui varie entre 9 et 10, c'est que votre Webtoon, il n'a pas de problème au niveau de la qualité. En tout cas, c'est ce que personnellement j'ai observé en lisant de nombreux Webtoons. Quand vous passez au-dessous de la barre des 9, c'est qu'il y a quelque chose qui a vraiment retenu l'attention des lecteurs de manière négative. Alors des fois ça peut être vraiment sur la qualité propre au webtoon, d'autres fois ça peut être simplement un sujet qui a choqué les lecteurs. Par exemple un personnage, bah, si vous prenez les romances un petit peu fantasmes bizarres, quand on s'approche un peu du non-consentement. Voilà, la série a beau être bien dessinée, peut-être bien écrite, je sais pas, c'est pas le genre de série que je lis. Vous pouvez tomber au-dessous de 9 facilement.
Ouais, donc du coup là, je pense que la plateforme doit réfléchir à certainement à prendre certaines décisions par rapport à ce titre-là, je pense. Enfin, ça doit engranger
En
des décisions en interne.
soi, non, la série, ce qu'un éditeur va vraiment voir, c'est au niveau des vues et de ce que ça rapporte. Après, si la série est au-dessous de 9, c'est plutôt que le lecteur, quand il va arriver sur la page, il va avoir une réticence supplémentaire à se lancer dans la lecture.
Donc du coup, ce que j'aimerais bien savoir un petit peu là, si on rentre un peu dans le détail de la stat, est-ce que du coup, bon, déjà, est-ce que tu es content de tes stats? Déjà, ça c'est le premier point en termes subjectifs. Mais après, si on prend un critère purement objectif par rapport au reste de ce qu'il peut y avoir sur la plateforme, parce que je vois qu'il y a des plateformes, certains webtoons qui ont dépassé le million, d'autres qui ont dépassé la centaine de milliers. Bon, après, je suppose que c'est des séries qui sont plus longues aussi. Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est un bon démarrage pour vous? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt encourageant?
Alors, c'est compliqué. Moi, j'aurais espéré un meilleur démarrage. Par contre, est-ce que c'est encourageant? Effectivement, c'est personnellement pour moi très encourageant sur plusieurs points. Alors, à la base, je suis pas du tout un littéraire. Je suis plutôt un scientifique. C'était dans cette direction-là que j'allais prendre mon bac, personnellement.
Ok.
Et du coup, bah, quand je m'attarde sur les chiffres, si on remonte au 23 septembre, donc c'est plus facile pour déterminer la qualité des statistiques, le 23 septembre, tu sais que l'épisode 4 n'était pas encore sorti. On avait à peu près 5600 abonnés pour 30 000 lectures. Alors une lecture, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment à partir du moment où vous lancez un épisode, il y a une lecture qui sera comptabilisée. Si vous avez lu les trois épisodes, vous avez comptabilisé trois lectures pour la page de la série.
Et question toute bête, est-ce que ça peut, si tu relis le chapitre, ça te compte une lecture en
Si
plus?
tu relis le chapitre, ça te compte une lecture en plus, mais
Ok.
évidemment, c'est pas significatif lors d'une sortie de série, puisque les gens n'ont pas de raison de la relire en général.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Donc, on se retrouvait dans une situation où, en moyenne, on avait 10 000 lectures par épisode, et
Ok.
avec 5600 abonnés. Ça veut dire qu'on avait un taux de rétention qui était
Eh
au-dessus de
oui.
55%.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est, sur la plateforme, disons-le, vachement bien. Voilà.
Ah bah oui, mais puis même surtout en fait quand tu regardes les taux de rétention maintenant c'est ce qui est regardé, c'est bien la quantité mais si tu arrives à garder ton nombre de lecteurs, enfin c'est joli, ouais, clairement.
Exactement. Donc c'est le notre point un petit peu d'attaque marketing aujourd'hui, c'est de dire que Stall Night, le lire, c'est l'adopter. C'est-à-dire qu'il suffit de le lire pour être convaincu. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas laissé la chance à Stall Night. Donc
Ok.
on se pose la question de pourquoi. Tu sais qu'au lancement sur Webtoon, on a donc des bannières pour la série qui vient d'arriver.
Ouais, elle est poussée, hein, d'ailleurs. Je vois que enfin, quand tu arrives sur le site, Stall Night est mis en avant, donc il
Tout
n'y
à
a pas
fait,
de
parce
raison,
que
quoi, tu vois.
voilà,
Ah ouais.
on est une nouvelle sortie. Ces bannières-là dont tu parles verticales sont vues, mais pas autant que les grosses bannières, tu sais, tout en avant du site.
D'accord,
Ces grosses
ok.
bannières-là, on va être en premier. Dès le premier jour de la sortie, on va être en premier et au bout de 24 heures, on va disparaître. Normalement, cette
La dure loi
bannière-là,
de la quantité.
exactement, normalement, cette bannière-là, elle doit rapporter dans les 50 000 lecteurs, pas abonnés. 50 000 lecteurs qui ensuite vont décider de s'abonner ou non. Si on avait eu
Ah.
cette statistique-là, de 50 000 lecteurs en moyenne, on se rend compte que, bah, avec ce taux de rétention, on serait au-dessus, pardon, des 25 000 abonnés. Ces
D'accord.
lectures-là, on les a pas eues. Donc ça, c'est les lectures classiques que tu as sur une série coréenne, par exemple, ou dans le cadre d'un concours pour mettre un concours assez avantageux pour mettre en avant ta série. Pour ce qui est
OK.
de nos bannières, nous, bah, les bannières, on a eu des retours qui étaient plutôt positifs, dessus. Et donc ça va se demander pourquoi on se retrouve dans une dimension qui est complètement parallèle. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions sur la plateforme. Tu as vraiment les séries françaises. Alors il y en a quelques-unes qui arrivent quand même à se détacher. Et tu as les séries coréennes qui font des
Et ouais.
stats assez similaires. Les coréennes vont faire des stats et les françaises vont faire des stats qui sont en dessous et qui sont assez similaires. Donc pourquoi on a atterri dans ce panier-là? La question, elle se pose. Donc effectivement, c'est une réflexion sur le point marketing. Après, nous, on est rassurés, comme je te l'ai dit, dans le sens où si on arrive à amener les gens à lire, on a des lecteurs. Voilà, ils vont s'abonner et ils vont continuer à lire semaine après semaine.
Est-ce que la plateforme vous laisse le temps quand même de développer un peu l'audience, on va dire, du webtoon? Est-ce qu'à un moment donné, ils disent, bah non, non, ça marche pas, de toute façon, on arrête, ça coupe. Parce que je regardais en même temps que tu parlais les stats de ton ancienne série, donc et Godsteer's Legacy, qui du coup, a priori, est arrêtée, parce que je vois ça s'arrêtait en 2021, si je dis pas de bêtises.
Exact.
Et est-ce que c'était prévu en 10 ou est-ce que c'était prévu en plus? Et du coup, je vois que vous avez fait 430 000 vues pour 26 000 lecteurs. Est-ce que c'était une première petite série? Est-ce que du coup, est-ce que c'est les stats qu'on fait arrêter? Est-ce que toi, c'est pour faire un peu le lien avec tout ce que tu racontes justement
Bien sûr. Alors, Godsir, c'est plus compliqué. On avait fait pour le coup un très bon lancement. La série, en tout cas la saison 1, était prévue en plus de 50 épisodes. Non, là, c'est plutôt les aléas de la création. Il y a eu des problèmes de santé, des problèmes généraux avec le dessinateur, ce qui a
D'accord,
fait que
oui, ok.
la série a dû se mettre en pause. On devait repartir. Au final, des circonstances ont fait que la série n'est jamais repartie. Mais le lancement s'était plutôt bien passé. On
Parce que les
avait...
stats sont bonnes, hein.
Ah, les stats sont bonnes. On avait dépassé le cap, en fait, dans lesquels normalement on est enfermé. Il y a un plafond de verre un petit peu pour les séries françaises. Et... Bon, moi c'est mon observation personnelle, mais donc comme tu peux le voir dans les épisodes, il y a un moment il y a une FAQ. Pourquoi il y a eu cette FAQ? Parce qu'il y avait déjà du mal à rendre un épisode par semaine, donc ça nous a permis un petit peu de respirer. Et dans cette FAQ, on s'est présenté comme étant des auteurs français et on a répondu aux questions des Français. À ce moment-là, les gens ont commencé à réaliser que notre série, bah, elle était française. Beaucoup pensaient que c'était une série coréenne en fait.
Ouais, donc juste traduit par un traducteur quelconque, enfin quelconque, non,
Exactement.
mais un traducteur qui traduit du webtoon, quoi.
Voilà.
Pas de jugement sur les
Non, bien
traducteurs,
sûr.
attention.
Comme tu vois, le style graphique était quand même très, très asiatique. On était dans ce genre d'histoire qu'on peut retrouver donc au Japon ou en Corée. Si on s'éloigne évidemment des histoires comme on a plein des MMORPG, etc. Et donc du coup, bah, les gens pensaient voilà que c'était beaucoup pensaient que c'était une série coréenne. Alors après, ça nous a pas donné du tort dans le sens où bah, une fois que les électeurs sont convaincus, ils sont convaincus. Mais c'est vrai que c'est assez marrant de regarder la différence de personnes qui peuvent simplement se rendre sur la page d'une série en fonction de si c'est catégorisé Made in France ou pas. Alors, c'est un peu comme le manga français, évidemment, les gens, bah, le manga pour eux c'est japonais, ils veulent lire du japonais. Sur Webtoon, on vient rechercher aussi ce petit côté exotique, on vient rechercher ce côté coréen, cette touche coréenne. Et donc du coup, ça c'est mon avis, je trouve pas ça forcément très malin de mettre en avant l'étiquette Made in France, d'autant qu'on se rend compte justement, comme tu vois, qu'il y a ces deux cosmes très différents. On a des stats immenses pour les séries coréennes et on a des stats qui sont bien plus moindres pour les séries françaises.
Je te rejoins complètement parce que je pense qu'il devrait, en tout cas dans le côté marketing, ne pas labelliser quelque chose de français. Il devrait la laisser sans donner forcément trop de détails. T'as le nom des auteurs et puis après, si tu veux en savoir plus, bah tu cherches à creuser sur les auteurs. mais je pense qu'elle devrait être mise au même niveau parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu parlais du manga français, puis c'est un bon exemple. Je pense que, mis à part quelques exceptions, on a eu la confirmation que Onera continuait à sa publication. Pour cet exemple-là, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés à 3 tomes. Toute la série de Kana là, que Kana a édité de manga français. Et je pense qu'ils auraient peut-être pas dû jouer sur le fait que c'était français, parce que pour avoir pas mal discuté avec l'autrice de Talento Seven, qui est Calonne, qu'on salue si elle écoute l'épisode, elle m'expliquait que, et j'aime bien sa définition, que pour elle, le manga, avant tout, c'est une forme de narration. De faire cette distinction entre que ce soit français, que ce soit de tel ou tel pays, bah pour elle, c'est une connerie, parce qu'en fait, clairement, c'est avant tout une manière de raconter une histoire. Comme le comics est une manière de raconter une histoire, comme la BD franco-belge est une manière de raconter une histoire, et comme le webtoon est une forme de narration. Et qu'on adhère ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être cette barrière en se disant que bah, les Français, ils savent pas faire de manga ou de webtoon, donc, alors que. À tort, on peut avoir des super trucs qui sont pas du tout,
Bah, il faut
enfin,
dire
qui sont français, quoi.
qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, effectivement, Made in France, c'est pas synonyme de qualité. Alors
C'est ça.
derrière, on peut avoir ce côté d'observateur froid pour se dire, bah voilà, qu'est-ce qui va en fait bénéficier le plus à une série, mais tout en étant très fier de faire du webtoon français. Moi, je suis très dans ce point-là, Chauvin, Cocorico, etc. Mais est-ce que c'est dans notre intérêt de nous afficher Made in France?
Ouais, c'est une bonne question.
Voilà, exactement.
Ouais, non, mais c'est clairement une question. Après, vous venez de vous lancer, je pense qu'il faut aussi que le, entre guillemets, le bouche à oreille se fasse aussi. Et puis clairement, moi je te dis, quand Villemar m'a proposé, j'ai d'abord été regarder hein, ce que tu faisais. Et franchement, moi ça m'a bien plu. Je me dis, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de parler des webtoons, parce que le titre est cool. Et puis voilà, donc. Et puis c'est vrai que c'est une mode de lecture que je. Il y a tellement de choses en fait, on ne sait jamais réellement par quoi commencer. Et c'est vrai que ça reste quand même très. Il y a beaucoup de titres quand même, tu sens que c'est destiné à un public, à une tranche d'âge. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'âge, où je me dis, non, c'est bon, c'est pas pour moi en fait. Je sens que je suis pas le public en fait. J'aime bien hein, les trucs, des fois, entre guillemets, de jeunes. J'ai encore beaucoup de shonen. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, clairement, je sens que je suis pas la cible, tu vois. Je me souviens toujours la petite cousine de ma femme qui a peut-être, je sais pas, 14 ans, 14 ou 15 ans. Elle m'a dit, ah, tiens, tu devrais essayer ça, c'est sympa et tout. Et j'ai commencé à regarder, je dis, oui, c'est sympa, mais je sens que je suis pas le public, quoi, en fait, quoi.
Et c'est tout à fait pour ça qu'on a besoin de plus de gens qui parlent de Webtoon, parce qu'effectivement, tu as cette immensité de contenu en fait sur la plateforme.
Ben ouais, en fait, excuse-moi, hein, t'es autant noyé que le marché du manga aujourd'hui. Alors moi, enfin, je suis plus au courant de ce qui se passe dans le marché du manga parce que je suis en plein dedans et je fais un podcast dessus, donc je m'intéresse à tout ce qui sort, etc. Il y a beaucoup de choses que je prends pas parce que ben voilà, je me dis c'est peut-être pas nécessaire. Et là, je découvre un monde où je me dis il y a encore même peut-être même plus de contenu que ce qui peut sortir en manga et parce que c'est peut-être plus facile à produire aussi. Et je me dis bah ouais, là pour le coup, c'est un océan quoi. Hein, c'est pas simple quoi.
Alors pour le coup, c'est clairement pas plus facile à produire. Peut-être à un certain moment, ça l'a été quand on était sur des productions qui étaient plus amateurs. C'est vrai que maintenant, quand le dessin doit être de plus en plus qualitatif, finalement, on se retrouve avec une qualité de dessin, manga avec l'impératif d'ajouter, de la couleur. Donc effectivement, ça
Oui.
complexifie un petit peu le tout.
Ce que je, alors pas de, encore une fois, je cherche pas à dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Je sous-entends juste le fait que il y a beaucoup de choses qui se fait par ordinateur et il y a toute une phase de la production que t'as pas, puisque tout est numérique et tout passe par le biais d'un serveur en ligne et compagnie. Donc en termes de sortie, je pense que ça va être beaucoup plus rapide à produire qu'un manga papier en fait, tu vois, classique qui sort en maison d'édition et compagnie quoi.
Peut-être, ouais, si tu prends en compte peut-être le travail des éditeurs, parce qu'effectivement après il faut recouper tout ça, par exemple dans un magazine de prépublication. C'est vrai qu'au niveau par contre des auteurs de manga qui travaillent de plus en plus eux aussi en numérique
Oui, complètement.
et qui donnent de moins en moins d'importance d'ailleurs à la qualité de leur dessin. Tu peux le voir par exemple dans Sakamoto Days où c'est plutôt le dynamisme et la composition. On est même plus sur aujourd'hui du crayonné ancrage. On est sur un genre de crayonné direct mais à l'encre. Tu vois.
Moi, ça me déplaît pas, moi, perso. J'aime bien le dessin de
J'aime beaucoup
Sakamoto.
aussi. Non, j'aime beaucoup aussi. Mais du coup, on est vraiment sur une notion d'économiser du temps et de l'énergie au mangaka. Mais parce qu'il y a eu toute une histoire avant avec des auteurs qui ont eu des problèmes de santé, etc. Et donc, on est vraiment sur une philosophie complètement différente du manga aujourd'hui. Là, le webtoon, c'est un peu comme si on était revenu en arrière. Tu sais, c'est un peu comme si on refaisait l'histoire du manga. Mais puisque c'est un format plus récent. Bah, on est au stade avant, là où tout le monde veut faire absolument énormément de qualité, et peut-être que ça retombera un peu plus tard quand on se rendra compte que, bah, au final, ce qui va primer, c'est l'histoire. Parce que moi, j'en ai vu énormément de mangas, ça doit être ton cas aussi, qui sont très très bien dessinés, mais où on
Ouais,
peut
et chiant.
s'arrêter, voilà, on peut s'arrêter au bout du chapitre 1 parce que, bah, on n'en a pas envie, en fait. La BD, bah, si on veut regarder des beaux dessins, tu fais artiste, tu fais des tableaux. La BD, c'est vraiment cet impératif de se dire on veut raconter des histoires à travers le dessin.
Non, mais clairement, je pense qu'avant tout, alors quand tu peux avoir les deux, c'est mieux.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que moi, il y a pas mal d'œuvres où j'ai eu du mal un petit peu en a priori avec le dessin, parce qu'il faut c'est le temps aussi de s'habituer au style du dessinateur. Je pense notamment à l'autrice de Beastars. Il y a Adachi aussi. J'ai fait un épisode récemment dessus où justement bah, il a un dessin assez atypique qui est pas dans les canons de ce qu'on peut retrouver dans le manga, mais pour autant c'est des gens qui savent raconter des histoires et en fait t'es pris par l'histoire et au final le dessin passe presque au second plan en fait. C'est important d'avoir un beau dessin et tu trouves après des qualités au dessin de l'auteur parce que
Grâce à
tu
l'histoire, ouais, tout à fait,
et
c'est
c'est
vrai.
grâce à l'histoire exactement ouais. Donc mais oui mais c'est vrai que mais il y a de toute façon je pense que vous êtes sur un marché Webtoon, c'est un marché qui explose. Est-ce qu'il va continuer à exploser comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est la question, est-ce qu'il va durer dans le temps? Ça, c'est peut-être la petite interrogation que j'ai. Je pense, dans l'avis que j'ai, je pense que malheureusement, ça ne sera pas le format papier qui permettra au truc de perdurer. Je pense que ça continuera en ligne. J'ai plus de doutes sur les ventes papier, en fait. Voilà, c'est peut-être la
Bien
petite.
sûr, alors il faut vraiment se dire que le format papier, de toute façon, c'est un produit dérivé hein, du webtoon. On va toujours préférer, quelle que soit l'œuvre, la consommer dans son format d'origine. Voilà. Mon analyse, c'est qu'effectivement, le webtoon, pour moi, c'est un format qui va durer. Je pense même que, alors bon là, ça peut créer des soucis, mais encore une fois, c'est comme toi, c'est pas dans l'idée de dire qu'est-ce qu'il y a mieux ou pas, parce que moi, avant tout, je lis plus de mangas que de webtoon, de toute façon, quoi qu'il arrive, et j'ai grandi avec les mangas. Mais je pense que le webtoon va finir par dépasser le format papier, tout simplement parce que bah, il y a des enjeux forcément qui sont écologiques, et puis la concurrence et les prix. Forcément, quand tu as accès sur le bout des doigts à toutes ces séries gratuites, voilà, le nouvel enjeu pour moi, le nouveau défi du webtoon, ça va être peut-être de privilégier la qualité à la quantité, parce que la
Ouais,
quantité, on l'a déjà.
pérenniser l'écosystème, hein, clairement, hein, parce que je pense que est-ce que dans le temps c'est quelque chose qui va être viable pour tous les créateurs de contenu et la plateforme aussi. Enfin, tout après, bon, je pense qu'il y a ce système d'annonceurs et compagnie qui permettent à la plateforme de vivre. Mais là, tu vois, tu parlais, hein, il y a eu toute une multiplication de plateformes de webtoon. Tout le monde a sa plateforme de webtoon aujourd'hui dans les éditeurs quasiment. Donc, est-ce que ça va durer dans le temps? C'est une chose. Je pense qu'il y aura toujours du format papier, mais on va de plus en plus aussi aller vers le format numérique, que ce soit webtoon ou manga numérique, ou même comics numérique. Hein. On a de plus en plus de choses qui maintenant peuvent se lire sur tablette. Et on le voit hein, quand tu as les grands du Japon qui développent, on pense notamment à la Shueisha qui a sa plateforme. Je crois que la Kodansha avait de la sortie, mais on ne l'a pas encore en France, mais la Kodansha a aussi une plateforme en ligne. Tu te dis que bon, bah, l'avenir, il est là, quoi.
Bah alors ce que tu dis
Mais.
est extrêmement intéressant, effectivement, maintenant on est sur une mode, une sorte de furie webtoon, et donc du coup tu as un peu tous les éditeurs qui ouvrent leur propre plateforme. Je suis pas convaincu que toutes ces plateformes puissent
Non.
coexister, voilà. Mais alors c'est là où on est aussi très très content et très heureux d'être publié sur webtoon, donc comme je disais, ceux qui ont fait naître ce format finalement donc en Corée du Sud, parce que nos statistiques, même si là tu vois, on s'en plaint, elles sont incomparables avec les statistiques qu'on aurait eues sur une plateforme concurrente.
Oui, bah, je pense que là, pour le coup, vous avez la visibilité que vous n'aurez peut-être pas eue chez un
Tout
petit
à fait,
éditeur,
pour te
quoi.
donner une idée,
Ouais.
là, tu vois, nous, on a 1000 likes, du coup, sur les 3 premiers épisodes. Bon, on est satisfait, on espère que ça montera plus. C'est pas un succès retentissant, mais si tu prends, par exemple, un des plus gros succès du manga français, peut-être le plus gros, Radiante, tu sais qu'il a été lui aussi adapté en webtoon, puisqu'il est sur
Complètement.
la plateforme d'Ankama. La dernière fois que je m'étais un petit peu intéressé à leur plateforme, je crois que j'avais vu qu'il tournait autour des 30 likes sur les premiers épisodes. Donc on est vraiment sur des échelles qui n'ont rien à voir. Voilà. Et nous, il faut se dire qu'on est sur une petite série qui vient de se lancer et qu'on espère gagner en visibilité. On passe de 1000 à 30 likes.
Ah non, mais clairement, clairement. Et tu vois, juste pour faire un petit parallèle, parce que on peut conclure par ça, parce que c'est intéressant et ça peut aussi. Et je trouve que malheureusement, c'est pas assez martelé. Mais on a aussi, donc on parle justement de cette adaptation en format papier, mais tu as aussi l'adaptation en live action, ou même en animé. Et moi, toi, je pense à un, et en fait, c'est une série que j'ai adorée et que j'ai appris que c'était issu d'un webtoon. Et du coup, je suis très curieux de le voir en webtoon, parce que du coup, j'ai adoré la série, c'est Bloodhound, la traque dans le sang. Je sais pas si ça te parle, qui était une série, c'est une série coréenne, sud-coréenne, qui est donc sur Netflix, où tu suis le parcours de deux boxeurs.
C'est
Bon,
marrant
pour
parce
avec la.
que... Ouais, non, j'ai pas
Et
du tout...
alors, Bloodhound, c'est le nom original, et je crois que le nom du webtoon, c'est Hunting Dogs. Voilà, et
Parce que
apparemment,
t'as
c'est un webtoon.
Sweet Home a été adapté, la série, donc Netflix, d'un webtoon. T'as aussi un truc de zombies, et souvent beaucoup de, tu sais, de dramas coréens, donc des romances un petit peu en webtoon aussi. Bon, après, nous, on s'attend pas à être adapté en live action. Je pense que c'est pas du tout le genre propice, tu vois.
Non, non, mais bien sûr, mais c'est pour se dire aussi que on voit que les séries cherchent leur inspiration aussi dans le webtoon, et ça montre vraiment l'impact que peut avoir maintenant ce média-là. Alors, donc, pour info, j'étais en train de regarder en même temps que tu parlais, Bloodhounds, c'est sur la plateforme où tu es, c'est sur Webtoon. Tu vois, donc, tu vois, et apparemment, c'est en 10 épisodes, il y a deux saisons, il y a une saison en 10 épisodes. Donc, écoute, est-ce que c'est la truc complète? Je sais pas. Là, je me trompe peut-être complètement, mais apparemment, c'est la même série en tout
Bah
cas.
écoute, tu viens de me faire découvrir quelque chose. Si t'as beaucoup aimé, j'irai bien évidemment lire. Parce que
Alors le
bah
lire, je sais pas ce que ça vaut, mais la
ouais,
série est cool pour le
la
coup.
série est cool, d'accord.
Ah ouais, la série est vraiment très bien.
Bah
J'ai pris un petit claque là.
je vais conseiller quelque chose aussi donc à tes
Eh ben
auditeurs. Si
vas-y.
vous voulez vous lancer dans le webtoon, moi je vous conseille de lire The Boxer, voilà, qui est un pur chef-d'œuvre. Alors je suis très très
Mais
très
oui.
dur dans mes lectures. J'ai beaucoup de mal à trouver des webtoons à mon goût, mais c'est aussi vrai pour le manga ou la BD classique. Et alors The Boxer, c'est une pépite. Alors il faut s'accrocher un petit peu dans les premiers épisodes si on est vraiment très dur, parce que on se dit ah c'est classique, ok je vois le truc, il y a le personnage un petit peu dépressif, il y a le Bakugo de service, etc. Et au final, si on laisse sa chance à la série, d'ailleurs des épisodes qui se lisent très bien et très vite, on arrive dans les 15-20 épisodes et là on se rend compte vraiment de toute la portée, de la force. D'ailleurs c'est le même auteur que la série Horizon, qui est un petit webtoon en 20 chapitres, qui a fait beaucoup parler de
Mais
lui,
est-ce que
parce
les
que...
deux n'ont pas été édités en papier? Est-ce que The Boxer, je le vois en librairie, ça je sais qu'il a été adapté celui-là, parce que je l'ai vu en librairie. Mais Horizon, il me semble l'avoir vu aussi, j'ai
Bien
un doute.
sûr, Horizon et The
Ouais?
Boxer ont été tous les deux adaptés en format papier,
C'est ça.
et c'est tout à fait mérité. Par contre, vraiment, encore une fois, bon, c'est peut-être pas le mieux pour le porte-monnaie de l'auteur, mais je vous recommande fortement de les lire dans leur format d'origine, parce qu'ils ont été pensés comme ça. Et alors, The Boxer, par exemple, comme tu as dit, on peut intégrer des animations au chapitre, mais on peut aussi intégrer des musiques. Et alors, il y a un des chapitres finaux de la série avec une musique, et juste, si tu te laisses embarquer, tu lâches ta petite larme.
Et c'est alors, je regarde, là je cherchais en même temps que tu en parlais, ça a l'air d'être dispo aussi sur Webtoon, mais moi je vois 7 épisodes. Est-ce que ça te paraît logique ou c'est ça? Ou c'est plus que ça normalement?
Alors oui, parce qu'il y a une nouvelle forme aussi dont on n'a pas parlé
Ouais.
sur Webtoon, c'est que quand une série arrive à son terme, tu vas avoir un certain nombre d'épisodes gratuits qui vont être déterminés, et ensuite tu vas avoir un système qui s'appelle de Daily Pass. Alors soit tu peux acheter les épisodes les
Ah,
uns
donc j'ai
après
pas
les
tout
autres,
sous les yeux, d'accord, ok.
exactement, ou alors une
Ouais.
fois par jour, tous les 24 heures, tu peux débloquer un nouvel épisode pour continuer la série. Voilà. Mais
Donc
ça...
c'est à moi de. Ouais d'accord, ok, c'est à moi de m'abonner à la série gratuitement, et puis après si je veux avancer plus vite, bah, faut que je paye. Et il y a histoire de jetons ou... Ouais
C'est
d'accord.
ça, et ton Daily Pass, il faut savoir qu'il est valable que sur un épisode parmi tout le catalogue, parce que tu as plusieurs séries en Daily Pass, donc il faut très bien choisir.
Ok.
Voilà.
Ouais, c'est tout un. Et puis oui d'ailleurs, bah, on parle de ça, mais sur ta série, mais on va conclure qu'à ça. Donc il y a 4 épisodes dispo gratuitement, mais si on paye, on peut avoir les 9 premiers épisodes.
C'est ça, tu auras
Voilà.
toujours pour l'instant 5 épisodes de plus, donc c'est-à-dire que là, ce dimanche, tu vas avoir l'épisode 5 qui va sortir en gratuit. Mais tu auras donc l'épisode 10 qui sera disponible en payant, et ainsi de suite.
Ok. Et à chaque fois, ça coûte ce qu'ils appellent 5 pièces. C'est ça. Et je connais pas, je découvre en même temps. Il y a, ouais, d'accord, c'est un système de pièces que tu peux acheter. Ok, 50 pièces pour 5 euros, 100 pièces pour 10 euros. D'accord, ok. Et à chaque
Voilà.
fois, tu déplaces. Ok. Ouais, donc mine de rien, je pense qu'ils doivent arriver à trouver leur écosystème avec ça. Je pense que enfin, ça doit bien marcher, je pense. Je suppose que les gens doivent beaucoup dépenser
Bien
là-dedans.
sûr, tu sais, comme dans toutes
Ouais.
les applications, tu as une partie qui profite la grande majorité gratuitement et une autre partie qui va payer, c'est elle qui va rapporter le plus gros des sous à cette application, ouais.
Et tiens, alors dernière petite question, parce que comme ça on terminera là-dessus, parce que ça fera la bonne conclusion. Est-ce que vous avez une. Vous êtes entre guillemets intéressés, j'ai envie de dire, par les lecteurs qui veulent déverrouiller les chapitres en avant-première.
Intéressé, c'est-à-dire essayer de les attirer un
Non, non,
maximum.
non, je sous-entends financièrement parlant. Est-ce que aujourd'hui,
Ah.
tu as le côté des gens qui vous lisent gratuitement, mais les gens qui payent pour lire en avant-première, est-ce que vous avez une rétribution par rapport aux gens qui payent? Est-ce que, ou
Bien
alors c'est
sûr.
déjà dans le deal de départ? Ok.
Dans le deal de départ, oui, on détermine un pourcentage qu'on va toucher du coup sur les gens qui vont payer les épisodes.
Ah, ok,
Voilà.
super,
Mais
d'accord.
au stade où on en est, c'est pas ça dont on va parler. Voilà. Il faut d'abord se dire qu'on va avoir une série à succès pour ensuite, voilà, comme tu as vu, les pièces coûtent pas très cher. De ça, on touche un pourcentage. Donc voilà, on va d'abord penser à attirer un maximum de public avant de réfléchir à ça, on va
Non, mais
dire.
ça peut être une, tu vois, si des gens accrochent entre guillemets à votre série, ça peut être une manière. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment soutenir le contenu français, etc. Ça peut être une manière, sachant que vous êtes entre guillemets commissionné dessus, en tout cas de vous aider dans le développement de la série,
Bien
de
sûr.
se
Alors
dire bah
si vous
tiens.
voulez nous aider, parce que pour le coup, il faut savoir qu'on est assez ambitieux, qu'on compte, voilà, moi personnellement, je compte monter plusieurs séries, essayer de faire différentes saisons, etc., et voir un peu où ça va nous mener. Moi, un petit peu mon rêve, tu vois, c'est Ankama. On y a tous cru, la pop culture française, briller à l'international, etc. Je pense qu'on a les moyens. Et alors, ça part de petites choses comme ça. On est quand même encore assez jeune et on essaye de grimper un petit peu en gamme au fur et à mesure pour aider. Le plus important, c'est de s'abonner et de faire du bouche à oreille. Ne vous dites pas, j'ai payé mes épisodes, j'ai donné de l'argent, etc. Nous, vous savez, bah, c'est les artistes, on fait pas ça pour l'argent. Voilà. Nous, ça va nous faire beaucoup plus plaisir de savoir que la série, elle plaît et qu'elle est lue par un maximum de personnes.
Ouais, donc c'est ça qui vous permettra de durer dans le temps.
C'est ça.
Eh ben écoute, super, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'était finalement un bel épisode. On a fait une petite heure, mine de rien, sur cet échange.
Eh ben, c'était un vrai plaisir.
Eh ben c'était cool, ouais, on va, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, auditeurs. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à nous proposer vos lectures Webtoon, hein. Moi, je suis très curieux, en tout cas, de découvrir. Là, tu m'as proposé The Boxer, donc toi, je m'y suis abonné pour le découvrir. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et puis, bah, je vais continuer à suivre ce que vous faites. Et je vais aussi découvrir sur une autre série, même si elle s'est arrêtée. Bon, je vais quand même aller jeter un œil, mine de rien, parce que le dessin est assez cool aussi. Et ben écoute, je te remercie. Est-ce que, un petit mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a quelque part où on peut te suivre, suivre tes actualités? Je parle un compte Twitter, un compte Instagram.
Bien sûr, alors vous pouvez me suivre Brian Strom du coup sur Twitter. Alors tous nos liens de toute façon sont linkés au niveau de la page de la série. Et d'ailleurs, bah, je vous invite aussi à aller suivre Saphir, la dessinatrice qui fait de superbes dessins sur Instagram.
Ok, et eh ben écoute, de toute façon, moi je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Moi pareil, je vais faire une petite phrase d'usage classique. Bon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas. Donc bah, déjà, comme tu disais, à en parler autour de vous, hein, le bouche à oreille, ça nous aide aussi beaucoup. Voilà, puis n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Discord, de toute façon vous connaissez la tambouille. Je vous mettrai tout ça dans la description du podcast. Brian, je te remercie
Merci à
en tout cas
toi.
d'avoir partagé ce moment. Bah, c'est un plaisir de partager. Et puis on se dit à bientôt. Et puis aux auditeurs, au prochain épisode. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde!